Europe 1.
18h32, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir. Autour de vous aujourd'hui François Didier Arinaud, directeur général Pro Tourisme, Laurent Duc, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et vous pouvez aussi réagir, n'hésitez pas au 39-21.
Nous attendons effectivement vos appels. Vous, est-ce que vos habitudes de tourisme, alors que vous êtes en vacances peut-être, alors que vous rentrez de vacances ou vous vous apprêtez à partir, sont en passe de changer, de s'adapter à cette crise qui a touché l'ensemble du secteur, et nous allons essayer d'en tirer un petit peu les fils et des réflexions pour voir comment s'en sortir. Je vous remercie d'être avec nous. Bonsoir Didier Arinaud.
Bonsoir François Clos.
Directeur du cabinet de conseil Pro Tourisme. Bonsoir Laurent Duc.
Bonsoir.
Président d'un des syndicats d'hôteliers français, LUMI. Laurent Duc, vous nous disiez il y a quelques jours que un certain nombre, et vous évaluiez ça à plusieurs milliers d'hôtels en France, pourraient mettre la clé sous la porte à la sortie de l'été. Vous confirmez ce sombre présage ?
Alors, peut-être pas à la fin de l'été, mais en tout cas,
entre
la fin 2020 et début 2021, il y a un certain nombre d'hôtels, oui, qui vont fermer, puisque le marché n'est plus à la dimension de l'offre, et il y a un moment ou un autre, il va falloir, c'est les plus résistants qui vont rester, malheureusement. Ce sera une sélection naturelle.
Parmi vos adhérents, vous estimez que on est à 25% de chute de fréquentation par rapport à 2019, en global.
Pour l'instant,
entre le 1er et le 25 juillet, si on compare les deux mois de juillet.
Entre le 1er et le 25 juillet, oui, je suis d'accord.
Plus les touristes et les hôtels qui ont été totalement fermés pendant le confinement.
Alors, il y a aussi des hôtels saisonniers qui n'ont pas réouvert cet été. Il y a à peu près en France 10 à 15% des hôtels qui n'ont pas réouvert, sans parler des hôtels parisiens qui sont pour moitié fermés au mois d'août.
Paris qui est fantomatique, la ville aux 80.
Puisque
oui, la ville aux 90 millions de touristes et qui là est quasiment fantomatique.
Oui, et Paris est principalement le réceptacle des grands vols internationaux, donc que ce soit l'Amérique du Sud, les Américains, les Russes, les Chinois, la péninsule arabique, l'Asie. Tout le monde arrive à Paris et c'est Paris qui tire son épingle du jeu là-dedans. Et bien aujourd'hui, vous n'avez que deux très grands hôtels qui sont ouverts, le reste sont fermés, ou en septembre, peut-être. Vous avez énormément d'hôtels qui ont préféré mettre leur personnel en vacances et fermer au mois d'août.
Et on dirait par exemple, comme autre signe, qu'un hôtel sur 6 seulement autour d'Euro Disney est ouvert à l'heure où nous parlons, si on doit terminer par ce constat. À l'inverse, Didier Arinaud, vous qui dirigez un cabinet de conseil sur le tourisme, vous avez constaté que du côté des campings, du côté des gîtes, du côté des locations saisonnières, ce qui s'annonçait de manière catastrophique au mois d'avril a finalement connu un rebond étonnant au mois de juin lors des ultimes réservations, et que finalement ce secteur-là, cette partie, ces niches-là s'en sortent bien en France.
Le tourisme français repose à la fois sur les clientèles françaises qui, rappelons-le, représentent 2/3 des dépenses, et des clientèles étrangères qui représentent 1/3 des dépenses. Les clientèles étrangères ne sont pas présentes ou peu présentes cette année, ce qui conduit à une situation d'ailleurs catastrophique pour Paris. Rappelons que Paris, c'est seulement 20% des nuitées qui a été généré l'an passé. Donc on est à 40% de taux d'occupation pour l'hôtellerie, et il y a la moitié des hôtels qui sont fermés. Ça vous donne une idée de l'ampleur, avec tout son corollaire, et notamment une division par 4, voire 5, de certains sites de visite, à l'instar du Louvre. En revanche, les destinations ou les opérateurs qui dépendent des clientèles françaises, ceux-là s'en sortent plutôt bien, avec d'abord des Français qui sont partis en vacances un peu moins nombreux que les années précédentes, mais le différentiel n'est pas si important. Et puis beaucoup moins de Français sont partis à l'étranger, puisque 90% de nos concitoyens qui sont partis en vacances sont restés dans l'Hexagone. Ça a conduit à un chiffre d'affaires tout à fait correct dans certaines zones, pas pour tous bien évidemment. On le voit, notamment tout le secteur de la vente à emporter, des glaciers, des sandwichs, de la sandwicherie, et une partie des restaurants dans certaines zones zones touristiques ont fait mieux au mois de juillet cette année qu'ils n'avaient fait au mois d'août l'an passé. Et certains, à l'heure actuelle, sur les 10 premiers jours, font plus de chiffre d'affaires qu'ils n'en faisaient les jours records du mois d'août l'an passé. Donc c'est le cas sur le bassin d'Arcachon, c'est le cas dans certaines zones en Bretagne, c'est le cas aussi dans des destinations plus rurales, que ce soit les Vosges, le Jura, l'Aveyron, la Lozère. Donc on a vraiment un tourisme à deux vitesses. Ceux qui dépendent des clientèles françaises et des clientèles d'agrément s'en sortent plutôt bien. Ceux qui dépendent des clientèles étrangères et des clientèles d'affaires, ceux-là souffrent énormément.
Énormément, mais on l'a entendu avec Laurent Duc. Oui, allez-y, Didier.
Quand même que c'est quand même une bonne surprise. Les réservations de dernière minute ont été au rendez-vous et même pour les acteurs qui étaient très en retard au niveau des réservations, c'est le cas de tout ce qui est du domaine de l'hébergement collectif, notamment les campings ou les villages de vacances ou les résidences de tourisme, ont bénéficié d'un afflux tout à fait considérable de réservations de dernière minute et avec, ils ont rattrapé 1% de taux d'occupation tous les deux jours pour finir ce mois de juillet, suivant les zones, entre moins 5 et moins 20%, ce qui est inespéré compte tenu de la situation dans laquelle nous étions.
Au mois d'avril, absolument. Bon, nous avons resté bien en ligne, Laurent Duc et Didier Arinaud. Nous avons des appels au 39-21, notamment nous avons Maxime qui nous appelle de Bourges dans le Cher. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Vous, Maxime, vous êtes allé en vacances en France, alors vous avez renoncé à vos projets lointains?
Alors, on a pour projet habituel d'aller en Andalousie, parce que ma femme a de la famille là-bas, donc c'est le rituel des étés, c'est d'aller en Andalousie.
Oui.
Et c'est vrai que cette année, on a opté donc, pour rester sur le territoire, et notamment, on a préféré partir à un site un peu plus rural et familial, et je pense qu'on est parti en Ardèche.
Dans l'Ardèche, ben voilà, on l'évoquait, voilà. On l'évoquait à l'instant avec Didier Arinaud. Alors, question évidemment, Maxime, est-ce que vous avez fait ce choix par défaut cette année et que vous allez reprendre vos habitudes la saison prochaine, ou est-ce que vous pensez que finalement, ben, après tout, les vacances en France, c'est peut-être un peu moins cher, plus responsable et tout aussi sympathique?
Alors, je dirais plus responsable, de fait. Moins cher, non, parce que l'Espagne reste quand même une destination qui n'est pas accessible, et notamment dans mon cas, je ne paye pas la location, donc forcément.
Bien sûr,
La restauration à l'extérieur reste quand même toujours moins chère en Espagne. On l'a bien vu cette année, hein. Tous les petits extras, les glaces, tout ça, on n'est pas sur les mêmes grilles tarifaires.
Mais oui, en France, c'est cher aussi, voilà, dans ce domaine-là. Oui, on vous a compris. Ouais. Bon, la liaison n'est pas terrible avec le département du Cher. Là, on vous croirait tout au fond de l'Andalousie plutôt, mais vous êtes bien dans le Cher à l'heure où vous parlez. Mais on a compris, effectivement, Maxime, ce qui sont aujourd'hui vos nouvelles motivations. Ça veut dire, Laurent Duc, vous qui êtes président d'un des syndicats d'hôteliers français, qu'il va falloir, pour survivre, s'adapter à cette nouvelle forme de tourisme, c'est-à-dire accepter des réservations de dernière minute, un tourisme de proximité, et peut-être créer de nouveaux lieux, moins pour les touristes et plus pour les Français.
Alors, il n'y a rien de très nouveau dans la réservation de dernière minute. Hein. L'hôtellerie est devenue, depuis une dizaine d'années, la réservation de dernière minute par les opérateurs en ligne. Si vous voulez, il y a même des gens qui vous réservent vos chambres d'hôtel devant la porte de l'hôtel, par du 3.0 des téléphones, et c'est rien de nouveau là-dessus. Par contre,
mais peut-être plus seulement.
Il est Alors plus, et Didier Arinaud le disait à très juste titre, on a aujourd'hui une clientèle qui n'a pas pu venir, mais on a une clientèle aussi qui n'a pas pu partir. Donc cette clientèle qui n'a pas pu partir a fait le choix de toute forme d'hébergement, et effectivement, peut-être moins l'hôtellerie, mais qui, elle, d'habitude, est dédiée aux touristes internationaux et aux affaires, et qui sont à des prix et à des prestations que les Français ne vont pas forcément valider parce que c'est trop cher, quoi.
Mmh. Comment est-ce que vous envisagez la réponse demain? Vous avez été soutenu en partie par les dispositifs du ministère, mais ça ne suffira pas?
Ah ben alors d'abord, les dispositifs, on a eu des reports de charges, mais pour l'instant, l'hôtellerie est la grande absente des aides directes. Nous n'étions pas fermés administrativement à part quelques régions, donc les assurances ne répondent pas à nos déclarations de perte d'exploitation. Les loyers des hôtels sont une partie très importante de nos charges. Aujourd'hui, les bailleurs n'ont aucun intérêt à baisser nos loyers, alors ils peuvent le faire. Et on parle de bailleurs institutionnels, mais il n'y en a pas tant que ça. Les 60% de bailleurs privés qui sont propriétés de nos hôtels veulent leur loyer et ne veulent pas prendre part à cette dégringolade. je dirais, à ce manque de rentabilité qu'ont les hôtels. Je prends pour le cas d'un restaurant directement, les hôtels-restaurants, il y en a plein. Lorsque vous pouviez mettre 100 personnes dans une salle de restaurant, aujourd'hui, vous n'en mettez plus que 70. Il est très clair que la valeur de la surface n'a plus le même engouement et n'a plus la même valeur que celle qu'elle avait avant la pandémie et qui ne va pas partir du jour au lendemain. Tout le monde est bien conscient et qui risque de durer jusqu'à l'installation d'un nouveau marché, parce que je pense que c'est deux solutions. Hein. On aura soit un vaccin ou des moyens de guérison efficaces, soit eh bien, le marché se réadaptera et ces hôtels qui fermeront laisseront place à un marché plus restreint que celui qui était dimensionné pour une destination comme la France, avec 90 millions de touristes.
90 millions tous les ans, effectivement. Didier Arinaud, vous qui observez les tendances de tourisme, vous diriez que finalement, derrière les circonstances, c'est peut-être une nouvelle philosophie du tourisme qui va se développer de manière structurelle. On entendait Maxime qui disait, moi, j'y vais aussi responsabilité civique, en quelque sorte. Je vais moins prendre l'avion, je vais avoir des vacances plus responsables. Ça, vous le sentez monter ?
Alors, on le sent monter, si ce n'est qu'il y a quand même une contradiction du consommateur, c'est-à-dire il veut bien sûr plus d'écologie, plus de qualité, plus de prestations, mais il veut payer moins cher. Donc c'est là que si on est véritablement citoyen, il faut aussi accepter de payer un petit peu plus cher dans un pays où nous avons des prestations sociales, nous avons une qualité, une sécurité sanitaire. Et cette année, vous savez, ceux qui ont vraiment gagné, ce sont les locations entre particuliers, c'est-à-dire ceux qui contribuent le moins au développement économique, qui ne payent pas de charges, qui ne payent pas de taxes. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont loués sous le manteau. Donc tout cela n'est pas encourageant en termes de développement économique. D'un côté, on a des opérateurs sérieux du tourisme qui ont mis en place des protocoles sanitaires, qui payent un maximum de charges, qui doivent investir chaque année, qui subissent les démultiplications des normes. Et eux sont ceux qui sont le plus pénalisés, alors qu'à l'inverse, le particulier qui loue son hébergement a pu bénéficier d'un certain engouement des clientèles qui recherchaient la maison individuelle, et plus particulièrement d'ailleurs la maison individuelle avec piscine. Alors quand il y a des réseaux qui sont ces réseaux structurés, qui participent au développement local, à l'instar de Gîtes de France, ça pose pas de problème.
Mais
en revanche, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra aussi qu'il y ait une participation de toutes ces locations au financement du secteur touristique, faute de quoi on sera dans une contradiction.
Donc là, c'est un appel à un nouveau cadre juridique que vous lancez.
Ah bah oui, absolument. Mm-hmm. Quand on parle beaucoup de réguler et de faire en sorte qu'il y ait moins de logements Airbnb à la fois dans les grandes métropoles mais aussi dans les hébergements touristiques, il faut passer à l'acte. Dans notre pays, on discute beaucoup mais on agit peu. Donc si on veut un tourisme plus vertueux, ce à quoi je crois énormément, un tourisme plus inclusif, un tourisme qui participe aussi du développement local, qui crée de l'emploi pour les territoires dont nous avons besoin, et heureusement, cette année, nous avons eu cette chance d'avoir une belle diffusion de l'activité touristique vers tous les territoires, à la fois le littoral.
Oui, on a vu de la publicité pour la Sarthe dans le métro parisien, pour des régions qui n'étaient pas forcément des destinations touristiques. Nous avons Jean-Baptiste au 39-21 qui nous appelle, messieurs. Jean-Baptiste.
Oui, bonsoir.
Merci d'être sur Europe 1 et de participer au débat des grandes voix ce soir.
Je t'en prie.
Alors vous avez changé d'habitude ?
Non. Nous, on a préféré être sages. Mais après, j'avais une petite idée comme ça, parce qu'on entend souvent parler, en particulier dans les jeux télévisés ou les jeux radiophoniques, qui sont offerts des croisières des croisières fluviales, donc le tourisme fluvial. Est-ce que vous pensez que cette forme de tourisme-là, justement, pourrait, entre guillemets, profiter de la situation et justement
se développer, un tour en pénichette sur le canal de Bourgogne ou sur la Sarthe dont je parlais tout à l'heure. C'est effectivement peut-être une nouvelle tendance. En un mot, Didier Arinaud, c'est un secteur qui se développe en France.
C'est un secteur qui se développe.
Faut-il qu'il y ait de l'eau dans les fleuves aussi, on en parlait hier.
Voilà, avec de petits bateaux ou avec des capacités relativement limitées, car cette année, on n'est pas à la mode des grands bateaux de croisière, comme chacun peut le concevoir.
Ouais, mais
avec
une petite pénichette en famille là, sur les canaux français, c'est un tourisme très agréable et qui correspond peut-être aux normes que vous développiez à l'instant à l'antenne. Laurent Duc.
Absolument. Et aujourd'hui, ce sont plutôt des clientèles étrangères qui sont friandes de ce tourisme fluvial. Il y avait un certain nombre de bateaux, d'ailleurs, y compris sur la Garonne à Bordeaux, qui remontaient, qui permettaient la découverte des vignobles du Bordelais. Certains ont très peu de clientèle aujourd'hui parce que la clientèle étrangère manque à l'appel.
Voilà, ben, les Français,
c'est pour ça
allez-y.
Que j'en profite pour allez. Dire aux Français, profitez-en pour faire du tourisme fluvial,
comme
de l'onotourisme.
Merci Didier Arino. Très rapidement, Laurent Duc, vous lancez un appel ce soir, une forme de SOS pour vos collègues hôteliers en très grande difficulté.
Didier Arino a très bien expliqué et a très bien dit que notre premier concurrent aujourd'hui, ça sera la location très particulier, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des professionnels du particulier, que les lois existent, elles ne sont pas appliquées, et c'est un drame, mais c'est peut-être aussi le constat qu'on peut faire des lois qui ne s'appliquent pas en France. Aujourd'hui, il va falloir à nouveau, si on veut que le secteur du tourisme sorte de l'ornière, il va falloir redéfinir des règles qui soient équitables entre tous et peut-être apprendre effectivement aux Français à redécouvrir les charmes. On parle des canaux, on peut parler des villes, on peut parler... on parle du centre de la France qui cette année a justement été redécouvert et de ce maillage touristique que la France a et peu de pays l'ont, cette hôtellerie de campagne et les gîtes, ces locations, ces chambres d'hôtes qui sont elles bien définies. Sont une réponse à ce tourisme de demain si la limitation des voyages, et on le voit bien par la...
Se confirme, et on l'évoquait dans le journal avec des moins 80, moins 50% de vols sur les aéroports français. C'est un sujet, n'en doutons pas, qu'on va réaborder à l'antenne. Merci à vous Laurent Duc, président syndicat des hôteliers français, d'avoir été sur Europe 1 ce soir. Et merci à vous Didier Arino, directeur beaucoup. Du cabinet de conseil Pro Tourisme. Et merci à tous les auditeurs au 3921 qui nous ont appelés.
Europe 1. 18h49, votre grand journal du soir revient avec vous, François Claus, et les reporters d'Europe 1 pour la rétro d'Actu, François.
On va partir avec Jean-Sébastien Soldaini sur la route des Balkans. Il a été l'un des premiers à pouvoir passer des frontières qui sont restées fermées pendant le confinement. Et il était avec son micro d'Europe 1 et on va revivre ce moment-là avec lui dans un instant.